des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont en 2009, aborde les œuvres de l'écrivain universellement reconnu, ses personnages, ses thèmes philosophiques, les écrivains en lien avec sa pensée, les hommes politiques ou les personnages historiques qu'il a rencontrés, ou par exemple ses correspondances. L'ouvrage comprend des centaines d'entrées, certaines inattendues comme « Europe ». Jean-Yves Guérin, qui a dirigé le dictionnaire Albert Camus, a évoqué les ancrages culturels, sociaux et politiques de Camus et sa grande passion du théâtre dans une première émission. Retrouvons-le pour le deuxième volet de l'émission Parcours consacrée à Albert Camus pour évoquer cette fois Camus dans la Deuxième Guerre mondiale, son roman La Peste, ses choix politiques, le temps des polémiques, la guerre d'Algérie pour Camus et la réception de son œuvre dans le monde. Jean-Yves Guérin, comment Camus traverse-t-il les années 40 et la Deuxième Guerre mondiale ?
Il débarque en France au début de 1940 parce que son journal, Le Soir Républicain, a dû se saborder. Il a été étranglé par l'administration coloniale. Donc en France, il va immédiatement être embauché par son ami Pascal Piat comme secrétaire de rédaction à Paris Soir. Et tout au long de l'année 1940, jusqu'en décembre, il travaille un poste très modeste, à des tâches obscures de secrétaire de rédaction. Il suit Paris Soir à Lyon et il assiste abasourdi à l'effondrement des institutions républicaines. La République est trahie par son personnel politique. Ce qui l'abasourdit, il n'a pas du tout de réflexe pétainiste, chose rare. Même Gide, Mauriac, qui ensuite évolueront souvent très vite vers le gaullisme, sont un peu abasourdis et ils voient dans Pétain peut-être le sauveur. Lui, pas du tout. Et la doctrine pétainiste le révulse. Il est trop hédoniste pour souscrire aux appels répétés de Pétain à la pénitence. Il retourne en Algérie lorsqu'il perd son emploi. Pourquoi en Algérie ? Parce que y a le salaire de sa femme, professeur de mathématiques. Il va se retrouver à Oran, où sa femme a été affectée. Et là, il va tenter, mais en vain, de mettre sur pied un petit embryon de résistance. Et il va donner des cours à des enfants juifs déscolarisés par les lois antisémites de Vichy. Puis, il retombe malade.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça.
Grave rechute de tuberculose. Et on doit l'envoyer se soigner en urgence dans la montagne, en l'occurrence au Chambon-sur-Lignon, refuge huguenot bien connu et terre d'asile pour de nombreux juifs pourchassés. C'est au Chambon-sur-Lignon et à Saint-Étienne où il va se faire soigner régulièrement qu'il noue les premiers contacts. Et ces contacts vont déboucher en 1943 par une entrée dans la résistance active où il, grâce à Pascal Piat, encore lui, il rejoint le journal Combat. On lui demande d'abord de s'occuper d'une revue qui en fait ne pourra pas être créée, puis du journal Combat clandestin dont il devient de fait le rédacteur en chef. Donc là, voilà sa résistance, une résistance avérée, où il a pris des risques, il a dû être mis au vert à la fin, parce qu'il avait été repéré. Voilà. Bon. Donc, une activité de résistance journalistique,
Il était tout à fait incapable de prendre le maquis et de tirer du fusil ou de la mitraillette. Donc une résistance claire qui va être théorisée dans l'être un ami allemand. C'est aussi une période d'écriture et il y a, sauf pour l'être un ami allemand, une déconnexion très nette entre les activités du résistant et la littérature écrite. D'abord parce que ce sont des œuvres parfois pensées avant. Donc on sait que l'étranger, si c'est publié en 1942, c'est terminé en 1940.
Oui,
donc il y a simplement de la mise au point. Caligula est une œuvre conçue à la fin des années 30, dont on a une première version achevée en 1941, version très déconnecté de la situation historique, où le personnage est plutôt nietzschéen, révolté. On aura une deuxième version, celle de 1943, mise au point en 1945, version plus politique, où le personnage de l'empereur fou est plus négatif. Mais malgré tout, il est difficile de voir Caligula comme représentant le maréchal Pétain ou Hitler. Donc là, la lecture politique est possible, mais bon, elle ne touche pas à l'essentiel. Donc on voit que les grandes œuvres écrites ou publiées entre 1940 et 1944 sont largement fortement étrangère à un projet politique, que ce soit l'étranger, le malentendu, le mythe du Sésiphe et un moindre degré Caligula. Mais alors, il y a l'être un ami allemand
qui, à part,
qui est un texte plus politique, qui est un appel à la résistance. Donc, on a chez lui la volonté, au fond, de ne pas mélanger les genres. La fiction doit être une fiction, elle peut parler de l'événement, elle peut parler de l'époque, mais il y a l'idée qu'il ne faut pas enfermer une œuvre dans un contexte historique trop étroit.
Ce côté œuvre intemporelle.
Voilà. Il faut qu'il y ait un potentiel universel dans l'œuvre. Et puis, je crois qu'il y a une certaine réticence pour la littérature politique ou partisane. Ça, il le dit dès les années 1938 dans des chroniques littéraires.
Donc, dans le dictionnaire, il y a des entrées vraiment intéressantes hein, sur ce sujet. Épuration à Philippe Pétain, sur des lieux précis, vous évoquiez Chambon-sur-Lignon, il y a une petite entrée. Et c'est vrai que là, en se promenant dans ce dictionnaire, on apprend beaucoup de choses. Le grand succès ou la grande rencontre avec le public, c'est justement La Peste. C'est à partir de La Peste, un peu après.
Je dirais d'abord L'Étranger. L'Étranger, livre qui fait événement.
Oui.
Malgré un tirage limité et une réception mitigée.
Oui.
Mais ce livre est reçu comme un livre moderne.
Une écriture
nouveau,
moderne.
Voilà, par l'écriture et puis par la thématique de l'absurde. Le grand succès du livre commence après 1944. Alors, donc, il y a La Peste. Ce n'est pas le plus grand succès de Camus.
Non.
Le public fait un bon accueil au livre, plus de 100 000 exemplaires vendus. Pour l'époque, c'est bien. La réception critique, là encore, est plutôt balancée, un peu mitigée. C'est-à-dire qu'il y a des critiques très favorables, bien sûr, mais entre les lignes, chez Maurice Nadeau, à Combat, Étiamble, au temps moderne, Bertrand d'Astorg à Esprit, Claude Roy à Europe, on voit des réticences esthétiques ou politiques. Esthétiques parce que on dit oui, c'est un peu terne, c'est un peu laborieux, le style n'est pas celui de l'étranger. Mais tout ça, c'était volontaire. Camus a voulu que ce soit ainsi. Et puis, bon, les innovations formelles, le fait que le narrateur camoufle son identité, cela n'a pas passionné les lecteurs. Alors, il y a les réticences politiques qui sont là aussi plus ou moins masquées et qui seront beaucoup plus explicites dans les années 1950. C'est que Camus a utilisé le détour de l'allégorie pour parler de l'événement. Et l'allégorie de la peste empêche de poser l'affrontement de l'occupant et de l'occupé. Le bacille de la peste décime la population. Oui, mais si pour le lecteur de 1947, la peste renvoie à la peste brune, formule bien connue pour désigner le nazisme. On n'y retrouve pas la Gestapo, on n'y retrouve pas ce qu'est l'occupation. Alors, sauf pour la vie quotidienne. Et là, on voit bien la subtilité, la complexité et peut-être les tensions internes du projet de Camus. On y retrouve la vie quotidienne sous l'occupation. La pénurie, les files d'attente, les rafles.
Au quotidien aussi.
Voilà, la vie quotidienne.
Qu'il aura aussi à cœur de redécouvrir dans le premier homme.
Tout à fait. On voit aussi la coupure en deux zones, les filières d'évasion. Donc tout ça,
c'est très précis.
Tout ça fait sens pour le lecteur de 1947. Il y a aussi la faillite des autorités. Le préfet est complètement débordé, la municipalité fait n'importe quoi. Elle ne pense qu'à maintenir l'ordre et pas du tout à faire en sorte que la population soit décimée. Donc, par petites touches, on a une évocation de l'occupation. Mais le lecteur peut être déçu. Surtout s'il pense qu'au moment où on écrit, je pense, au roman communiste sur l'occupation, qui nous présente des militants. Ce n'est pas vraiment des militants, Rieux, Tarrou, Le Père, Panelou. Alors, ce sont des résistants, mais pas vus comme des militants d'une cause politique. La résistance dans la peste, et c'est pas un hasard, si la métaphore médicale fonctionne bien, ce n'est pas un hasard si le personnage principal, par ailleurs narrateur, c'est un médecin. Cette résistance, c'est plutôt une organisation humanitaire. Au fond, Rieux et Tarrou inventent Médecins sans frontières ou Médecins du monde, avec l'idée que la résistance est était morale plus que politique, même si elle était active. Alors, cette idée-là passe évidemment beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, les résistants ne s'y retrouvent pas toujours. Certains s'y retrouvent, d'autres non. Et il faut penser aussi que ce récit cadre mal avec les deux récits dominants, le récit gaulliste et le récit communiste.
Contemporains, et quand on les place dans leur contexte, c'est ce qui a probablement valu les premiers malentendus,
ouais.
Et plus tard les vives polémiques accentuées par la guerre froide, par cette première période de la guerre froide.
Tout est masqué, tout est voilé. Hein. On est en 1947, Camus est une autorité morale, est une grande voix de l'époque, donc il y a certaines mesures dans les critiques, mais il y a des critiques.
Qu'est-ce qu'on lui a reproché alors ? Pourquoi est-ce qu'il a été si mal perçu à ce moment-là ou mal accueilli ?
La peste ou Camus ?
Camus.
Ah, Camus. Alors là, il faut avancer un peu dans le temps. C'est la guerre froide.
Oui, c'est pour ça.
C'est la guerre froide. Voilà. Camus écrit dans une époque de très forte polarisation idéologique. Et il ne se situe pas du côté dominant.
Non.
Les choses se formulent de plus en plus explicitement. Par exemple, on voit qu'il y a des critiques très vives pour les justes et qui viennent de la mouvance communiste. On peut penser que les communistes savaient qu'il était un renégat. Et être un renégat en année de guerre froide, c'était être un traître, un ennemi juré.
Oui, il était...
Alors donc, il y a une hostilité très forte des communistes à Camus, que l'on trouverait chez des auteurs comme Garaudy, Canapa et la presse communiste en général. Ce qui fait sens, c'est que cette hostilité à Camus, elle passe des communistes à la fraction progressiste, mais non communiste, de la gauche.
Il y a un article, une entrée à gauche dans le dictionnaire, bien sûr.
Oui, une entrée gauche. Bon, et alors là, il faut un peu remonter en arrière. Camus a plutôt des sympathies socialistes après 1945, même s'il est déçu très vite par le Parti socialiste gouverné par Guy Mollet. Mais donc, ses sympathies sont dans la mouvance socialiste et dans des fractions très, très marginales du mouvement anarchiste. Mais le mouvement anarchiste pèse peu depuis 1914. Donc, il fait partie d'une gauche hétérodoxe, non manichéenne. Or, l'époque est à l'orthodoxie et au manichéisme. Donc, il est un peu en porte-à-faux. Et c'est ce que va manifester l'accueil à l'homme révolté. Alors, il ne faut pas être victime d'une erreur d'optique, si je peux utiliser cette métaphore. Le livre trouve immédiatement de nombreux lecteurs. La réception critique est d'abord plutôt favorable. Il y a des articles extrêmement élogieux, venant de la gauche, non communiste, des milieux chrétiens et de la droite. Il suffirait de citer les articles très élogieux d'Albert Béguin dans la revue Esprit, ce n'est pas rien.
Il y a une notice aussi à la revue Esprit.
Paul Ricoeur.
Ouais.
S'il y a une notice Ricoeur, c'est que ce grand philosophe a fait une recension très favorable de l'homme révolté. Et on pourrait citer d'autres exemples. Donc, dans un premier temps, les choses se passent bien. Puis, il va y avoir deux salves dévastatrices. Une salve des surréalistes, mais dont l'audience est faible en ces années 1950. Et puis, une chose inattendue et terrible pour Camus, des existentialistes. Il se trouve que en 1951-1952, Sartre et son entourage, Simone de Beauvoir, Francis Janson, se rallient au communisme soviétique, deviennent des compagnons de route. Et cela se traduit par une démolition en règle de l'homme révolté par Francis Janson. Sartre dit après coup, personne ne voulait faire l'article, Janson s'est dévoué, on pensait qu'il garderait de la mesure, etc. etc. Bon, en fait, pas vrai. Il y avait une volonté de Janson et de Sartre de démolir Camus, ce qu'ils ont fait. Donc un article extrêmement méchant, injurieux, injuste, soulignant lourdement les limites de la culture de Camus, son incompétence philosophique et ses choix politiques.
Se présentant comme les philosophes.
Oui, c'est l'héritier qui règle son compte au boursier, le normalien à celui qui a seulement une maîtrise. Cet article a été surmédiatisé. L'article de Janson, puis l'article de Sartre, donc ces deux articles ont été surmédiatisés, commentés, et vu le poids de Sartre, ont fourni, au fond, une sorte d'interprétation officielle. Après 1952, et quoi qu'ait dit Ricoeur, Béguin et d'autres, Camus est vu comme un penseur de second rang, et comme un homme qui a rompu avec la gauche. Il est un non-conformiste de gauche, mais être non-conformiste de gauche, c'est être de droite pour les communistes et pour Sartre. Là, on est dans une logique de guerre froide. Camus n'a pas su gérer sa polémique. Il envoie un long texte, argumenté, très solide, mais son message passe mal. Parce que on est en 1952 et que le marxisme est au plus haut. Et l'image du Parti communiste est très remarquable. Après tout, lorsque l'année suivante, Staline meurt, la presse de droite est triste. Il y a un article de Mauriac, par exemple, mais d'autres. Hein. La France porte le deuil de Staline, et pas seulement les communistes. Donc le climat est extrêmement favorable à l'idéologie communiste et marxiste. Et Camus, par quelques dizaines de pages de L'homme révolté, fracasse l'icône des progressistes. Et c'est cela qu'on lui fait payer. Au fond, le débat autour de L'homme révolté, c'est un procès stalinien à Saint-Germain-des-Prés. Simplement, Camus en sort comme le vaincu. Au fond, la relation entre Sartre et Camus devient de concurrentielle conflictuelle. C'est comme dans les grands mythes. Pour que Rome soit fondée, il faut que Romulus tue Rémus. Bon, on a là le mythe des frères ennemis et il y a l'immolation d'un des deux frères. Donc une sorte de sacrifice symbolique, bien sûr. On est dans le mythe. Camus a le sentiment que il en sort vaincu, délégitimé. D'où une phase de dépression. Dans les faits, je le rappelle, une bonne partie de la critique a été positive et à l'étranger, le livre a une bonne réception. Quelqu'un comme Hannah Arendt trouve que c'est un très bon livre. Mais elle ne le dit pas à Camus. Voilà. Donc, voilà pourquoi Camus, à partir des années 1950, est un homme seul. Alors, il est d'autant plus un homme seul qu'il n'a pas de tribune. Il avait combat. Il quitte volontairement le combat en 1947, il ne va pas ailleurs. Sartre a les temps modernes. Camus n'a rien. Il y a eu une petite revue en Pédoc, elle a eu quelques numéros, elle a disparu. Donc il est sans tribune, sans appui organisationnel, il n'y a pas un parti derrière lui, donc c'est l'homme seul. Il a de rares amis, René Char, Louis Guillou, par exemple, mais eux-mêmes, ce sont les solitaires. Donc voilà comment Camus a perdu la bataille des idées, la bataille médiatique, dirait-on aujourd'hui. Et alors, on va rester sur cette idée-là jusqu'à une date récente. C'est-à-dire Camus, c'est un mauvais philosophe, un piètre penseur. À la rigueur, un bon écrivain, il a du style, mais bon, il a raté les grandes occasions de son époque.
Alors, comment pourriez-vous nous présenter l'humanisme de Camus ?
Alors, d'abord, humanisme, c'est un mot qu'il n'utilise pas trop.
Pas trop.
Les quelques citations que l'on trouve dans son œuvre sont souvent avec une connotation négative. C'est-à-dire que il me semble réagir contre un certain humanisme mou de l'entre-deux-guerres. Disons que l'étiquette humaniste a un peu trop servi. Alors bon, Duhamel, Guénaud, on a souvent rapproché Camus de ses auteurs. Donc lui-même ne revendique pas l'étiquette humaniste. Mais de fait, c'est un humaniste au sens large ou authentique du terme. C'est un humaniste comme Montaigne, Rousseau sont humanistes. Donc il s'inscrit dans une certaine tradition littéraire de l'humanisme français. Ce qui va compliquer encore sa réception. Parce qu'à partir des années 1960, émerge un mouvement, une école, une sensibilité théorique, le structuralisme, qui condamne l'humanisme. Silence absolu de Foucault sur l'œuvre de Camus, ça fait sens. Donc, je crois qu'il y a une posture humaniste chez lui. Le sens de la peste est très clairement un sens humaniste. On peut lire aussi, avec cette clé-là, Les Justes, L'Homme révolté, et au fond, beaucoup d'articles politiques. La formule n'est pas de Camus, mais bon, les articles de combat renvoient à un socialisme humaniste.
D'accord.
Ou à un humanisme social, mais plutôt un socialisme humaniste. Bon. Donc, il est un humaniste, et c'est comme ça qu'il est vu à l'étranger. C'est pour ça qu'il a le prix Nobel.
C'est pour cette, ce bien côté-là.
Bien sûr.
Et cette audience universelle-là, c'est là qu'il la décroche.
C'est en partie
comme ça.
Pour cela. Et aujourd'hui, le formidable retour à Camus, c'est le retour à une icône de l'humanisme.
Alors, vous évoquiez le philosophe qu'on a minimisé tout à l'heure. En quoi le dictionnaire-là peut nous éclairer à nouveau sur l'importance de sa philosophie? Parce qu'il y avait plusieurs entrées, bien
oui,
sûr.
Oui, il y a beaucoup d'entrées philosophiques qui ont été principalement confiées à un des seuls spécialistes, Maurice Weyembergh, et il est significatif que ce soit un collègue belge. Il aurait été assez difficile de trouver des enseignants français, même s'il y a deux philosophes, Jean-François Mattei et André Comte-Sponville, qui ont écrit des livres sur Camus, principalement sur l'absurde chez Camus. Travaux d'ailleurs de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas foule chez les philosophes pour apprécier l'œuvre de Camus. Est-il philosophe, d'abord? Si on lui pose la question, sa réponse est non. Il se considère comme écrivain, artiste et, dans certaines situations, journaliste. Il ne prétend pas être philosophe, il ne l'est pas par profession. Il a fait des études de philosophie, mais au fond, arrêté avant l'agrégation et avant le doctorat. Or, c'est à ce niveau-là qu'on devient vraiment philosophe patenté, Socrate fonctionnaire, comme on a dit. Donc, il ne l'est pas, il ne prétend pas l'être. Ce qu'il écrit, ce ne sont pas des traités philosophiques. Il ne publie pas chez Vrin, par exemple, comme font un certain nombre d'auteurs. On est plutôt dans l'essai, dans le versant littéraire de la philosophie.
Accessible.
Tout à fait. Il se situe dans la ligne ou la lignée de son maître Jean Grenier. Écrivain, philosophe et homme de la Nouvelle Revue Française. Donc, plutôt essayiste, il ne cherche pas à construire un système, comme Sartre, Althusser, ou les marxistes en général. Il ne cherche pas à produire de nouveaux concepts, à raffiner de nouveaux concepts. L'absurde, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il le trouve dans la philosophie du 19e et du 20e siècle. Il réfléchit sur l'absurde, mais n'apporte pas des choses fondamentalement nouvelles. D'où la formule « philosophe pour classe terminale » ou « philosophe pour littéraire ». La seconde formule est sans doute plus exacte que la première, trop polémique et venant d'un critique notoirement hostile. Donc il y a une réflexion, des essais, une pensée argumentée. Ça suffit-il pour faire un philosophe ? Tout dépend de ce qu'on appelle un philosophe. Une définition minimale, dirait Camus et de ses auteurs, qui font réfléchir. En ce sens, il est philosophe, mais pas comme Kant. Il est philosophe comme Proust, comme Beckett, comme Malraux. Il fait partie de ces romanciers ou dramaturges philosophes. Aujourd'hui, la tendance me semble être à une certaine reconnaissance des mérites de Camus. Alors, il y a accord pour dire que il n'a pas la stature, pour parler des contemporains, de Ricoeur ou de Lévinas. Mais il pourrait mériter une reconnaissance comme philosophe.
Jean-Yves Guérin, quels ont été les combats de Camus ? Ces grands combats ?
Alors, son premier combat, c'est un combat auquel il n'a plus participé pour des raisons de maladie de date, c'est la guerre d'Espagne. Oui. Donc, il fait partie d'une génération que la guerre d'Espagne a traumatisée et obsédée. Il n'a pu rejoindre l'Espagne s'y battre dans les brigades internationales parce qu'il était malade. Mais la nostalgie de la République espagnole va être un fil conducteur pour sa carrière. On sait mal, parce que ce n'est pas dans la bibliographie française, qu'il y a un de ses livres qui s'appelle « España Libre », qui n'est pas en français. C'est un recueil de textes réunis par un républicain espagnol réfugié au Mexique, et pour lequel il y a une notice dans le dictionnaire. Donc c'est vraiment le combat exemplaire pour lui. Il y a la résistance, il y a l'Europe, il y a le soutien à Pierre Mendès France en 1956. C'est la seule fois où il donne un appel au vote, par un article de l'Express, et il y a l'Algérie. Alors, peut-être faudrait-il dire aussi, il y a le soutien aux révoltes antitotalitaires de Pologne et de Hongrie.
Oui. On a parlé tout à l'heure de la Pologne à propos de l'Europe, mais il y avait ça en filigrane.
En 1953, il prend position pour les ouvriers d'Allemagne de l'Est qui se sont révoltés en 1956 par un texte admirable qui s'appelle Poznan, il soutient les Polonais. Et il y a plusieurs textes sur la Hongrie qui en font un auteur culte dans ces pays. Alors, donc là, c'est des combats mais ponctuels. Et puis alors, il y a l'Algérie. L'Algérie, c'est pour lui une tragédie. Et je prends le mot au sens précis du terme. Eschyle, Sophocle. C'est-à-dire qu'il y a un combat inexpiable et il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que, contrairement aux trilogies grecques, où la dernière pièce amène l'apaisement, Édipe à Colonne, les Euménides, ben, en général, dans la mémoire collective, il n'y a pas d'apaisement. Donc, il a vécu la guerre d'Algérie comme une tragédie grecque. Et il a voulu, il a cru possible d'être sorte de médiateur. Alors je pense qu'on est obligé d'être long sur la guerre d'Algérie. Il a voulu prévenir cette guerre. En 1945, il y a une quasi-coïncidence entre les émeutes de Sétif, 8 mai 1945, et un recueil de reportages,
ses derniers
reportages, qui porte sur
crise en Algérie.
Voilà. Qui porte sur les événements.
Huit articles publiés dans Combat. Oui, il y a une position éditorialiste là un peu, non ?
Absolument, mais c'est quand même des reportages éditorialisés hein, pour moi. Et où il comprend que les choses s'aggravent très vite. Qu'on n'a pas fait les réformes qu'il préconisait 7 ans plus tôt dans Alger républicain et que l'événement est en train d'échapper à tout contrôle. Il préconise à cette époque alors là, des réformes radicales, partage des richesses, instauration de la justice et reconnaissance de la personnalité arabe. Le problème est qu'il a une stratégie réformiste et que les réformes ont toujours un train de retard par rapport aux revendications. Depuis 1942, il ne vient plus qu'épisodiquement en Algérie.
Mais il est très peu revenu après.
Il va voir sa famille plusieurs reprises, mais il n'a plus de vrai contact avec les militants locaux, notamment les militants arabo-musulmans.
Ces figures politiques qu'on évoquait tout à l'heure, Misali Hadj et tout ça,
Ferhat Abbas sont nés vers 1900.
Mais il n'a aucun contact avec eux quand il revient.
Si, mais ils sont dépassés. Les cadres militants sont nés vers 1920. Il ne les connaît pas. C'est la génération Ben Bella,
Ait
Ahmed, Belkacem Krim. Donc, il ne mesure pas la radicalisation des militants, des élites algériennes après les émeutes de Sétif. Donc lui, il en reste à une stratégie de réforme sociale et économique, et en ce sens, c'est un homme de gauche. Les problèmes sont des problèmes socio-économiques. Il suffit de mettre beaucoup de crédit, de donner les conditions d'un vrai développement, qu'il y ait de l'emploi, des revenus, et il n'y aura plus de revendications. Il sous-estime le caractère politique nationaliste du mouvement qui s'est enclenché en 1945 et qui est d'abord clandestin. Il ne voit pas que Ferhat Abbas est dépassé par ses cadets. Il a plus de 50 ans et les militants de 20-25 ans sont radicaux. Parce que il y a, et pourtant Camus l'a vu, il y a un large mouvement de décolonisation. Il y a eu en 1955 la conférence de Bandung qui a orchestrer les mouvements de libération nationale, les accords donnés. Camus en parle dans l'Express. Il dit que le temps des impérialismes est révolu.
Est achevé.
Mais il ne peut pas concevoir que l'Algérie soit concernée. C'est-à-dire que pour lui, il suffira d'instaurer la prospérité pour que les revendications soient satisfaites. Et là, il y a une erreur d'analyse qui s'explique par son éloignement. Donc la guerre éclate, elle n'est pas vue comme une guerre. D'ailleurs, on ne parle pas de guerre, on parle d'opération, de pacification. Il faudra attendre du temps pour que l'opinion, les hommes politiques, parle de la guerre d'Algérie. 1960, il y a un livre de Jules Roy, ami de Camus, qui est intitulé « La guerre d'Algérie ». Alors, il est d'abord atterré, et il faut attendre 1955 pour qu'il prenne des positions publiques. C'est à cause de l'Algérie qu'il retrouve une tribune à l'Express, hebdomadaire, puis quotidien, mandésiste. Il compte sur Mendès France pour trouver une solution à la guerre d'Algérie. Alors, il y a une analyse de la guerre d'Algérie complexe et pour moi remarquable. Il s'efforce de penser ensemble le terrorisme et la répression.
Il y a vraiment une très belle notice là, très claire sur le terrorisme dans le dictionnaire, justement.
Donc, il voit un mécanisme à deux branches, le terrorisme et la répression. Il voit aussi deux nationalismes face à face. Le nationalisme algérien et le nationalisme français, porté par les élites des Français d'Algérie. Il souhaite une troisième voie, compromis. Un compromis fondé, je rappelle, sur des réformes économiques et sociales, un partage des richesses, dont à aucun moment les Français d'Algérie ne veulent.
Mais aucune des deux parties en question n'accepte ce compromis.
C'est en ce sens qu'il y a tragédie. C'est en ce sens qu'il y a tragédie. Hein, et on pense, et c'est significatif, au discours sur la tragédie, la conférence d'Athènes, qui date de cette époque. Je crois qu'il faut envisager ensemble les articles sur l'Algérie et la conférence d'Athènes. Avec l'idée que personne n'a totalement raison, personne n'a totalement tort. Que la situation a l'air manichéenne, mais que dans les faits, il faut la penser autrement. Donc c'est une analyse courageuse, mais inaudible. Qui peut reprendre à son compte les analyses de Camus? Quelques amis, d'où la trêve civile.
Oui, l'appel à la trêve civile.
L'appel à la trêve civile de janvier 1956. Mais c'est une poignée de Français libéraux qui sont plus ou moins ses amis.
Oui.
Poncet, Maison Seule et quelques autres. Le problème, c'est qu'aucune force politique, ni dans l'Algérie française, ni dans la gauche métropolitaine, ne prend le relais. Et en face, les militants qui ont pris les armes ne veulent pas le compromis. Ils veulent la victoire totale, c'est-à-dire l'indépendance. Donc, il a une position inaudible, courageuse, et qui le maintient isolé. Donc, alors qu'est-ce qu'il essaie de faire? La trêve civile. Revenons-y. Il se rend à Alger, il tient un meeting avec, à la tribune, des autorités religieuses, catholiques, protestantes, musulmanes, un mufti. Et il lance cet appel, il demande que les civils, les femmes, les enfants, soient laissés à côté de la guerre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une trêve totale, il s'agit de ne pas s'attaquer aux civils, attentats aveugles, répression aveugle. Ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. Là, la faute historique, on revient au gouvernement de Guy Mollet. Alors là, il y a eu un problème de calendrier. C'est que la trêve civile est lancée en janvier, qu'en février 1956, Guy Mollet se rend à Alger, il reçoit des tomates que lancent les partisans de l'Algérie française, et il cède tout. Il fait campagne avec les mandésistes pour une solution négociée, et il choisit la victoire militaire. Donc, il n'y a plus de place pour les positions de Camus. Donc, la guerre va aller jusqu'au bout et Camus sait. Alors, il le dit dans des confidences orales, dans quelques lettres, que l'issue de la guerre, ce sera l'indépendance de l'Algérie. Et l'indépendance de l'Algérie, c'est la fin de l'Algérie plurielle. Car au fond, s'il est contre l'indépendance de l'Algérie, c'est pour deux raisons, mais deux raisons solidaires. La première raison, c'est que c'est la fin de cette Algérie plurielle qu'il avait connue et sans doute idéalisée. Mais c'est aussi l'Algérie abandonnée à un parti-État terroriste. Et son analyse, les justes, c'est qu'un parti pratique l'attentat terroriste et le laboratoire d'un État totalitaire. Pour cette raison-là, hostilité au FLN, il est contre l'indépendance. Alors, il esquisse des solutions, mais dépassées, solutions fédérales, correspondant à ces idées politiques, un fédéralisme qui court dans certains articles de combat, ni victime ni bourreau, par exemple. Donc, il y a une sorte de fédération, la France, l'Algérie, avec quelques institutions communes et une très très large autonomie. C'est le projet Rocard-Chibaou sur la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, personne n'en veut. À nouveau, personne n'en veut. C'est trop pour les Français d'Algérie, c'est pas assez pour le FLN. D'où le silence de Camus après 1956. Silence interrompu par un texte fondamental, la préface à Chroniques algériennes, texte bilan sur la guerre d'Algérie, mai 1950.
Alors, Chroniques algériennes, 39-58.
Avec un avant-propos.
Et il republie Misère dans la Kabylie.
Il republie l'essentiel de Misère de la Kabylie, une partie de Crise en Algérie et quelques autres textes de l'Express.
Le prix Nobel n'a pas non plus été une tribune pour lui
non.
sur ce sujet.
Non, non,
il,
non.
Il rencontre De Gaulle en 58 quand même.
Il rencontre De Gaulle en 57.
Ah, oui.
De Gaulle devenu simple citoyen.
C'est juste avant que De Gaulle ne revienne au pouvoir.
Il ne se rend
en fait.
Pas à l'Élysée. Ce n'est pas quelqu'un qui se rend à l'Élysée.
Je n'avais pas fait attention à ce point-là dans la chronologie. Chaque mois compte dans
cette période,
histoire.
Tout particulièrement.
Et alors, il séjourne en Algérie en avril 1958.
Il va plusieurs fois en Algérie après 1955, voir sa mère.
L'incompréhension doit être totale.
Alors voilà, alors, il faut comprendre que dans son milieu familial... la pratique de l'attentat terroriste a frappé les gens. Donc, il est exposé à des discours...
Mais je crois qu'on ne mesure pas la violence de l'époque.
Ils sont là-bas.
Et puis, on ne mesure pas la violence.
Sa mère, sa belle-famille, des frères, cousins, ça, ils sont sur place. Hein, donc, le terrorisme, ils savent ce que c'est. Bon, donc, sa famille a tendance un peu à durcir ses positions, sans être sur des positions extrémistes. Hein, je le dis tout de suite. Et donc, à chaque fois, il revient plus pessimiste. Hein, parce que il y a une sorte de machine infernale qui est lancée. Hein, il voit bien que l'issue de la guerre, c'est l'indépendance de l'Algérie. Alors, on sait maintenant, et ça a été dit par Guy Pervillet dans le dictionnaire, qu'il avait, disons, accueilli positivement le grand discours du général de Gaulle, le septembre 1959, sur l'autodétermination.
Oui.
Avec l'idée que l'autodétermination pourrait ne pas déboucher sur l'indépendance, mais sur une solution fédéraliste. Bon, c'est sa dernière analyse. Mais c'est la position de 1959. On ne sait pas ce qui va se passer.
Oui,
ensuite,
puisqu'il est.
Même si, bon.
Il est mort.
Il y a une logique de l'événement qui conduit à l'indépendance. Pour des raisons d'ailleurs que Raymond Aron, en 1957 et puis 1958, a très bien mesuré, c'est le poids économique de la guerre qui entrave le développement économique de la France et c'est l'impossibilité d'intégrer dans un cadre unitaire une population qui a un différentiel démographique. Ce que De Gaulle a évidemment vu tout de suite. Voilà. Donc voilà, Camus, à la fois, c'est pareil, il s'est trompé, mais il a eu une analyse peut-être insuffisante, mais qui pour moi lui fait honneur. Ses écrits sur l'Algérie sont des écrits douloureux, il est déchiré, mais en même temps, il a essayé de contribuer à un compromis qui épargnerait des vies. Et c'est plutôt l'honneur d'un intellectuel de chercher à épargner des vies. On a eu au XXe siècle, peut-être y en aura-t-il encore au XXIe, trop d'intellectuels qui ont été des fanatiques, qui ont applaudi le crime de masse. Camus, sur ce point-là, est exemplaire.
Et on ne peut pas s'empêcher de penser au problème du terrorisme aujourd'hui. Hein. C'est...
Bien sûr, même si le terrorisme d'Al-Qaïda n'est pas exactement celui dont parle
comparer,
Camus
mais...
dans Les Justes
sûr,
et
mais...
dans les écrits sur l'Algérie. En revanche, s'il y a un endroit où les écrits algériens de Camus méritent d'être médités, c'est en Israël et en Palestine. Voilà, on a une situation qui ressemble étrangement et tristement à la situation algérienne.
Une dernière chose, un des derniers combats de Camus, c'est celui contre la peine de mort.
La question de la peine de mort, c'est une grande question pour Camus. Elle traverse l'œuvre, l'étranger, la peste, avec le personnage de Tarou, les justes, l'homme révolté, le premier homme. Et il y a là une sorte de legs du père. Ce père, homme simple, pauvre, qui, parce qu'il avait été horrifié par un crime, était allé assister à l'exécution du criminel qui s'appelait Pirette. Et il en revient horrifié, il vomit. L'événement est souvent raconté par Camus. Et il est fondateur pour lui. Et il va être, tout au long de sa vie, un partisan résolu de l'abolition de la peine de mort. Et cela débouche en 1957. Et la date 1957 est extrêmement intéressante parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie. Et que la peine de mort, les terroristes l'infligent aux femmes et aux enfants. Et les autorités les infligent aux terroristes. Donc il y a pour Camus l'idée que la peine de mort est un crime d'État, un crime officiel. Et donc il est pour l'abolition inconditionnelle de la peine de mort. Et il va argumenter cette idée avec un essai, Réflexion sur la guillotine, qui fait diptyque avec un essai de Koestler sur la pendaison. Et ces deux livres, ces deux essais sont réunis avec une petite étude d'un vieux complice de Camus, Jean Bloch Michel. Le texte, évidemment, qui est la Bible des abolitionnistes, et, auquel Robert Badinter rendra hommage à diverses reprises, et notamment dans son célèbre discours de 1981 à l'Assemblée nationale. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce texte paraît en pleine guerre d'Algérie et qu'il aide à comprendre les écrits de l'Express et l'avant-propos à Chroniques algériennes. Donc là, évidemment, ça fait de Camus un auteur souvent cité par les humanitaires, référence pour Amnesty International, etc.
La belle image.
Bah, oui, il reste que... pourquoi Sartre n'a-t-il rien écrit contre la peine de mort ? Sartre, au contraire, trouvait très bien qu'on applique la peine de mort aux adversaires politiques de la Révolution.
Pour terminer, peut-être, justement, Camus a eu une audience universelle et le dictionnaire... Albert Camus l'a publié en décembre 2009, rend bien compte de cette audience universelle par différentes entrées consacrées à de nombreux pays où l'œuvre, qui montre comment l'œuvre de Camus a été reçue. Alors, il y a une entrée sur le Japon, sur les États-Unis, donc on couvre un peu le monde avec, pour moi, étonnement. Donc, Camus a-t-il été plus défendu ou mieux reçu ou adopté hors de France qu'en France?
Pour terminer le descriptif, je voudrais ajouter que pour chaque œuvre,
oui,
il y a la liste des traductions. Et qu'au total, on a plus de 60 langues. Bien sûr, certaines œuvres, l'étranger d'abord, sont plus traduites que les autres. L'étranger, la peste, les justes, Caligula. 60 langues, c'est quelque chose de considérable. Toutes les langues européennes, y compris le basque, le gallois, l'estonien, le slovène, langues parlées par quelques centaines de milliers de personnes parfois. Les langues de l'Inde, le tamoul, le sinhala, le chinois, le japonais, le thaï, etc., l'indonésien, donc une soixantaine de langues. C'est-à-dire qu'on est en présence d'un auteur qui a une réception mondiale. Aucun auteur français du XXe siècle n'a une telle réception. Quand on passe maintenant au tirage, on a des surprises extraordinaires. Plus de 4 millions d'exemplaires de l'étranger vendus au Japon. Universalité de Camus. Sartre n'atteint pas ces résultats. Ni Proust, ni Mauriac, pour parler des grands auteurs qui ont une fortune internationale. Pour prendre un exemple, Mauriac, ami et ennemi de Camus, mais grand écrivain, Mauriac a une audience d'abord en milieu catholique. Amérique du Sud, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Slovaquie, Pologne, etc. Il en sort relativement peu, même si ça lui donne une belle audience internationale. Donc Camus a une universalité de la réception. Et sans doute parce que c'est un auteur facilement universalisable. Par son écriture, qui certainement se prête bien à la traduction, par ses thèmes, par son humanisme. Et quand on voit de près certaines réception. On voit qu'après-guerre, il y a trois pays où sa réception est particulièrement importante. Alors, il est traduit partout en Europe, disons dans le monde occidental. Il y a trois pays. L'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'est trois pays qui sortent de la dictature. Et c'est dans ces pays que son audience est immense. On a vu que l'état de siège avait connu un échec. En Allemagne, la pièce se joue sans cesse dans les années 1950. Et c'est là, au fond, qu'elle a été jouée. Changeons d'époque. Dans les années 60, l'Espagne, l'Europe de l'Est, Camus a été un auteur culte en Pologne, en République tchèque. Si on joue un peu Caligula en France, on le joue énormément en Pologne. Et curieusement, il y a un Caligula polonais, mais il ne le connaissait pas. Un grand auteur polonais avait écrit un
Caligula.
Le Caligula de Camus ne cesse
mais
d'être
joué. Mais André Vajda a pas fait un film.
Le grand Vajda, mais c'est plus tard.
Oui, bien sûr. Dans les années 1980. Mais c'est pour dire comment il est rentré dans le patrimoine.
Absolument. L'adaptation des possédés. Voilà. Donc, auteur culte en Europe de l'Est. Alors, bien entendu, parce qu'il y a eu Poznan, il y a eu les textes sur la Hongrie.
Bien sûr.
Aujourd'hui, quels sont les pays où Camus a un succès croissant ? L'Algérie, l'Iran. Eh oui, l'Iran. Mais pourquoi ? Parce que dans tous les cas, Allemagne, Italie, Japon, les années 45-55, Espagne, pays de l'Est, Iran, Algérie, c'est qu'il est vu comme un passeur des valeurs démocratiques. J'ai un petit fait, peu connu, alors vraiment pas connu du tout même. Il y a quelques semaines maintenant, un chroniqueur du Monde, Franck Nouchi, a réuni des citations de Camus dans son petit article. C'était des citations de Camus sur la démocratie. Ces textes ont immédiatement été traduits en persan. Et ont circulé sur la toile, reproduit la logique Internet. Alors c'est ça qui fait la fortune unique de Camus. Alors à la fois, il y a le classicisme et la modernité de l'œuvre. C'est qu'il cumule, au fond, les deux.
Son œuvre
de forme. Elle est classique et moderne. Et il est un passeur de l'idée démocratique, mais par ses fictions.
Par ses œuvres, peut-être cette fracture générationnelle dont il a été victime au moment de la guerre d'Algérie.
Oui,
en tout cas, ses œuvres le réparent.
Oui, ce qui a valu à la peste d'être critiqué fait sa valeur aujourd'hui. C'est que la peste, c'est le communisme pour un Polonais, c'est l'islamisme pour un Iranien. Donc la polysémie de l'allégorie fonctionne partout. Les Justes, c'est une pièce qui a un énorme succès hors de France et dans les pays qui sont affrontés au terrorisme, et ainsi de suite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord par l'étranger, par la peste, par les Justes, aujourd'hui par le premier homme, que passe le message de Camus. Car souvent, on n'a pas l'homme révolté. Les Polonais, les Tchèques lisaient l'homme révolté par Samizdat.
Donc il y avait, on sait qu'il y avait des exemplaires qui circulaient en français, voire traduits, qui circulaient. Mais ça, bon, seuls quelques militants, la Libelleuse dissidente pouvait lire. Mais, donc, mais on trouvait dans La Peste de quoi penser la démocratie, lutter pour la démocratie. Et ça, c'est unique. C'est unique. Et c'est ce qui fait la gloire universelle de Camus.
Merci Jean-Yves Guérin de nous avoir restitué la figure d'Albert Camus, écrivain, philosophe, grand passeur d'idées démocratiques à travers son œuvre, de nous avoir également présenté une partie de ses livres, de ses combats, et d'avoir abordé pour nous la réception de son œuvre dans le monde. Je rappelle que vous avez dirigé le dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont en 2009. Jean-Yves Guérin, merci encore d'être venu.
Merci à vous.